Bonjour à toutes et tous, vous êtes sur Graphite 94.9, je suis Stéphane. On écoute aujourd'hui des étudiantes et étudiants de l'UTC qui vont venir présenter les projets qu'ils ont réalisés cette année au sein du cours IS03, l'eau technicisation et numérique à l'UTC donc. On va présenter 6 projets aujourd'hui, chaque présentation va durer à peu près un quart d'heure, 20 minutes, et puis entre chaque on remettra un petit peu de musique, et ça devrait nous tenir environ jusqu'à 17h. Alors de quoi on va vous parler. Donc l'objectif de ces projets, c'était d'imaginer des outils numériques low technicisés, c'est-à-dire des outils qui visent à plus de soutenabilité ou de convivialité et ou de convivialité. Alors soutenabilité, on voit à peu près ce que ça veut dire, hein, pour le simplifier, c'est réduire l'empreinte environnementale de l'outil numérique lui-même, ou bien concevoir un outil qui permet indirectement de réduire l'impact d'autres objets. La notion de convivialité, c'est chercher à bien vivre avec les objets, par exemple savoir comment ils fonctionnent, les réparer, les partager, ne pas en être dépendant. Vous pouvez retrouver ces concepts et les différents projets qui ont été menés sur l'onum.fr. Je suis dans le studio avec Marie-Anaïs, Élise et Pierre. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Donc vous allez dans quelques instants nous présenter le premier projet, donc qui s'appelle 8M2. Je vais y revenir très bientôt. Et donc il y aura 6 autres projets. On va parler territoire l'ONUM. Il y aura un autre projet autour de 8M, donc 8 milliards d'internautes. On va parler cinéma, on va parler médias sociaux et puis réparabilité des ordinateurs. Si jamais vous avez des questions pendant l'émission, vous pouvez les poser sur le pad à l'adresse pad.picasoft.net/p/IS03. Mais donc on va commencer avec le projet, donc 8 milliards d'internautes, une première partie. Donc l'objectif est de permettre à des collectifs d'internautes de réaliser et de publier des évaluations de sites web selon des critères communs. Mais Marianne, je crois que c'est toi qui commence, tu vas nous en dire un petit peu plus, tu as donc la main.
Donc effectivement, notre projet s'appelle 8 milliards d'internautes. L'intitulé du projet exact est 8 milliards d'internautes, volet 2, collectif d'évaluation environnementale de sites web. Donc comme l'a dit Stéphane Croza, l'objectif de ce projet est d'implémenter une association à l'UTC qu'on appelle EcoGrade et qui va faire des évaluations sur l'impact environnemental de sites web. Cette association EcoGrade est constituée d'élèves et de professeurs volontaires et elle va publier des rapports sur l'impact environnemental de sites web qui ont été évalués avec une note et des commentaires. Ces rapports sont alors publiés sur les sites web d'EcoGrade. Tout le monde peut voir la note attribuée à chaque site. Et si jamais le site n'a pas une très bonne note, alors il y aura une alternative proposée accessible à tout le monde.
Donc, avant d'arriver à cette solution, on a d'abord fait un travail en préliminaire de réflexion globale et de documentation autour du sujet, que l'on appelle également l'état de l'art. Donc ainsi, nous avons dû examiner les différents types de collectifs possibles et imaginables permettant justement de réaliser ces évaluations. Donc il existe plusieurs catégories de collectifs différentes sur le plan juridique, financier, également dans la prise de décision, etc. Tout d'abord, un collectif, il peut être formel ou informel. Donc selon le site association.gouv.fr, le collectif informel, aussi appelé association de fait ou non déclaré, est un groupement de personnes, physiques ou morales, qui n'a pas souhaité accomplir des formalités de déclaration. Donc l'association non déclarée, le collectif informel, ne bénéficie pas de la capacité juridique de la personne morale. Ainsi, les membres y sont libres de choisir leur propre mode de fonctionnement. En revanche, l'association elle ne peut pas ouvrir de compte bancaire à son nom, par exemple, ni signer de contrat de location d'un local. A l'inverse, le collectif formel est une association qui possède cette capacité juridique. On dit aussi qu'elle a la personnalité juridique. L'association a alors une personnalité propre, distincte de celle de ses membres. Cela lui accorde donc des droits. Elle peut, comme on l'a dit tout à l'heure, louer un local ou ouvrir un compte bancaire à son nom. Et enfin, les membres du collectif disposent d'une protection juridique. Donc nous avons décidé, dans le cadre de notre projet, de s'orienter sur un collectif formel pour plus de crédibilité et plus de garanties, avoir une structure stable et durable dans le temps. Donc il existe un très grand nombre ensuite d'associations formelles. Donc il existe tout d'abord les sociétés. Certaines sociétés, elles disposent d'un modèle intéressant dans le cadre de notre projet, tels que les SCOP, Ce sont des sociétés coopératives et participatives dont, selon le site de la Confédération Générale des SCOP, je cite, les salariés sont les associés majoritaires et le pouvoir y est exercé démocratiquement. Cependant, après réflexion, nous nous sommes orientés vers une association loi 1901. Pourquoi ? Et bien essentiellement parce qu'une association loi 1901, elle n'a pas vocation à dégager des bénéfices, contrairement à une société. Cela nous paraissait essentiel d'avoir un collectif engagé dans la lutte contre la pollution du numérique qui ne soit pas à but lucratif, un service purement bénévole. Ainsi, donc, des associations loi 1901, il en existe de partout, dans tous les domaines dans notre société, et en particulier ici à l'UTC, puisqu'une grande partie des associations du BDE de l'UTC disposent de ce statut d'association loi 1901. Cette association, elle est donc déclarée en préfecture et elle dispose d'un bureau avec des membres tels que le président, le trésorier, le secrétaire, etc. Et donc, nous avons ainsi décidé d'imaginer la création d'EcoGrade, une association UTCienne. Ce collectif, il va donc avoir comme objectif d'évaluer d'un point de vue environnemental les sites web. Et c'est ainsi qu'à présent, nous allons écouter un court extrait sur l'impact du numérique et du web sur l'environnement, issu de l'émission Alors on change de la chaîne RTBF.
Le secteur du numérique, c'est actuellement 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour se donner une idée, c'est déjà plus que l'aviation civile. Mais le plus inquiétant, c'est que ce chiffre pourrait doubler en seulement 5 ans et potentiellement atteindre les 15% en 2030.
Pourquoi le numérique pollue ? Premièrement, il y a les équipements. Ensuite, il y a les infrastructures réseau. Et enfin, il y a l'échange et le stockage des données qui représentent à elles seules environ 25% de cette pollution.
Donc là, on va passer à la partie concernant le maquettage du projet. Donc nous avons rédigé pour se faire des petites histoires sur des fonctionnalités précises proposées par notre système, donc notre association EcoGrade. Je vais donc vous en présenter une qui s'intitule « Jacqueline veut se renseigner sur l'impact d'un site web ». Donc Jacqueline est une doctorante curieuse et souhaite se renseigner sur l'impact environnemental d'un site web. Elle se rend donc sur le site EcoGrade et tape dans la barre de recherche le nom du site en question, par exemple Amazon. Quelques instants après, une note s'affiche entre 0 et 10 à l'écran, avec un descriptif qui lui est associé. Jacqueline peut donc savoir, grâce à EcoGrade, si un site web est polluant et pourquoi il l'est. Dans le cas où le nom du site n'est pas mentionné, une phrase sera affichée pour signaler que le site recherché n'est pas encore traité ou est en cours d'évaluation. Donc, grâce à cette histoire, nous avons pu identifier les expressions fonctionnelles associées à notre système. Dans un premier temps, EcoGrade permet aux utilisateurs de savoir si un site web est éco-responsable. Ainsi, ce système lui permet d'être facilement alerté sur les sites web qui ont un impact négatif sur la planète. En plus d'alerter sur les sites polluants, EcoGrade fournit également des informations détaillées sur les raisons pour lesquelles ces sites sont néfastes pour l'environnement. Cette fonctionnalité permet de mieux comprendre les problèmes spécifiques liés à ces sites et de prendre des décisions éclairées en matière de navigation sur le web. Par exemple, un utilisateur utilise EcoGrade pour évaluer le site web qu'il souhaite visiter. Grâce à ce système, il découvre que le site en question n'est pas éco-responsable et a un impact négatif sur la planète. Ainsi, l'utilisateur, conscient de son impact, décide de ne pas visiter le site et recherche une alternative plus respectueuse de l'environnement. Un autre aspect utile d'EcoGrade est sa capacité à proposer des alternatives éco-responsables. Lorsqu'un site web est identifié comme polluant, le site suggère des alternatives qui respectent des critères environnementaux plus stricts et qui ont donc une meilleure évaluation sur EcoGrade. Ainsi, les utilisateurs disposent de choix plus soutenables et peuvent ainsi contribuer à réduire leur empreinte numérique en utilisant des sites web qui ont un impact moindre sur la planète. Reprenant l'exemple de l'utilisateur précédent, donc après s'être rendu compte de l'impact négatif du site web qu'il allait consulter, il cherche des alternatives à ce site web en question. Donc il se rend compte qu'EcoGrade propose justement en dessous de l'évaluation détaillée des alternatives à ce site web. En étant conscient de son impact négatif, l'utilisateur peut donc en toute liberté choisir de consulter un autre site web plus sobre et donc de limiter son impact environnemental. Donc voilà, à présent nous allons écouter un court extrait donc, sur comment réduire l'impact numérique des sites web issus de la même émission que précédemment, donc Alors on change de la chaîne RTBF.
Rendez-vous avec Anthony. Son truc à lui, c'est de faire des sites les plus légers et donc les moins polluants possibles.
Donc ici, par exemple, c'est un site qu'on a développé et qu'on a optimisé pour un festival belge. Et si on compare ce site avec d'autres sites concurrents lors de la même année, par exemple, il n'y a que 0,32 g de CO2 qui sont produits à chaque page. Et le site concurrent, on était à 7,49 grammes de CO2, ce qui est quand même plus ou moins dans la moyenne de ce type de site. Et donc voilà, ici, on avait quelque chose qui était 23 fois moins nocif. Ce qui a vraiment d'important, c'est que lorsqu'on va sur un site, il faut bien avoir conscience qu'on télécharge des données, on télécharge des fichiers, des informations. Et plus ces fichiers, qui peuvent être des images, des vidéos, du code ou autre, sont légers, moins ce sera énergivore et moins ça demandera de l'énergie pour fonctionner.
Je vais maintenant vous présenter un outil d'évaluation, d'auto-évaluation, donc qui permet d'évaluer notre projet et surtout qui permet de voir les limites de notre projet. Donc je vais parler de paris et je vais mettre ces paris-là en relation avec des estimations chiffrées. Cet outil est intéressant car il permet de remettre en cause notre projet et surtout des éléments clés du projet. Et donc je vais pouvoir dire si ces éléments clés-là sont réussis dans le futur ou non. La première hypothèse, le premier pari qu'on peut dire, est les évaluations de sites web sont mises à jour rapidement ainsi que les nouvelles évaluations. Donc effectivement, EcoGrade évalue des sites web et si la note est mauvaise, le développeur en question peut reprendre son site et le rendre éco-friendly. Mais dans ce cas, EcoGrade doit mettre à jour toutes ces évaluations-là. Cependant, il y a un temps de latence entre la publication des évaluations et cette mise à jour des informations. Donc un site qui vient d'être corrigé par son développeur, EcoGrade ne pourra pas forcément faire la mise à jour sur le rapport mis en ligne. Une fois que le site est corrigé, il va falloir attendre un peu avant de pouvoir faire la mise à jour sur le rapport. Il y aura donc ce temps de latence. Donc pour rendre cette explication plus concrète, on peut rajouter des estimations. Donc disons que 20% des évaluations des sites qui ont déjà été évalués doivent être mis à jour car ils ont eu une mauvaise note entre guillemets. Donc cela va rajouter du travail. Si les évaluations doivent être reprises, moins de nouvelles évaluations vont sortir au fur et à mesure et donc ça va prendre plus de temps. On arrive à un cercle vicieux qui est infini en fait. La deuxième hypothèse qu'on peut faire est les UTC1. Donc on rappelle que c'est bien une association à l'UTC. Les UTC1 pardon, utilisent activement EcoGrade. Ici, on va parler d'un pari réussi, parce qu'on va estimer que 50% des utilisateurs des UTC1 au moins ont une fois consulté EcoGrade. Il y a donc environ 2200 UTC1 sensibilisés. Et de même, 70% d'entre eux utilisent ce site activement. Donc 1500 étudiants environ. Ça implique que les étudiants vont utiliser les diverses actions mises en place, donc que ce soit des tutos pour rendre son code plus éco-friendly ou des utilisations d'alternatives à des sites web polluants, et ainsi de suite. La conséquence est que tous ces étudiants seront sensibilisés à la cause et de ce fait seront conscients de leur impact sur l'environnement vis-à-vis du numérique et vis-à-vis de l'utilisation aussi qu'ils en font. Ils seront donc beaucoup plus enclins à réduire leur impact environnemental. Le dernier pari, hypothèse ou élément clé du projet que l'on peut citer est la consommation numérique des UTC1 a été réduite car 40% des UTC1 actifs sur le site d'EcoGrade utilisent régulièrement les alternatives aux sites polluants. Donc ici on parle d'un pari réussi et il va venir compléter l'hypothèse précédente. On va parler d'environ 700 étudiants qui réduisent leur consommation numérique de manière conséquente. Donc ça prend en compte les étudiants qui ont agi après avoir lu les rapports, qui ont utilisé les alternatives si le site en question est marqué comme polluant. Et si eux arrivent à utiliser ces alternatives, ça va inciter les autres étudiants à réduire leur impact environnemental. Et donc on va avoir une plus grande diminution, une plus grande réduction de l'impact environnemental global de tous les UTC1. Pardon.
Ok, merci beaucoup Marie-Anaïs, Élise et Pierre pour cette présentation. Alors elle a suscité pas mal de questions sur le pad. On va donc se lancer. Peut-être pour la première, vous avez insisté sur le fait que l'on parlait ici d'une association à l'UTC. Mais dans votre projet, est-ce qu'il y a l'ambition de généraliser un petit peu ça, que ça puisse prendre d'autres formes, que ça existe dans d'autres lieux, donc que ça se diffuse dans d'autres contextes, éventuellement sous des formes différentes? Est-ce que vous avez pensé un peu à cet aspect-là?
Je peux commencer à répondre. En fait, ce qu'on avait imaginé, c'est que d'abord, l'association, elle évoluerait au sein de l'UTC, donc en tant qu'association, et qu'en fait, elle aurait peut-être comme pour vocation d'être reproduite dans d'autres universités, et donc de créer une sorte de réseau avec des liens entre les différentes associations créées dans les différentes universités pour que justement il y ait une sorte de mise en commun des évaluations et que le site avance plus rapidement et donc soit plus efficace.
Ok, donc il y aurait à réfléchir dans ce cas-là à comment justement intégrer ces résultats et peut-être les faire, les interopérer par exemple. Une seconde question, est-ce que vous avez fait des estimations chiffrées sur, ou est-ce que vous avez des idées là, sur la quantité de sites qu'il faudrait évaluer pour que ça ait du sens? Est-ce que c'est seulement les plus grands sites? Est-ce qu'il faudrait en faire bien beaucoup plus? Donc à peu près quelle quantité de travail ça demande d'évaluer un site? Combien de personnes il faudrait? En gros, est-ce que votre projet a une chance à un moment de commencer à donner des effets, ou est-ce qu'il faudrait plusieurs dizaines d'années de travail avant qu'on ait quelque chose à pouvoir utiliser?
Donc, pour l'instant, la seule estimation chiffrée qu'on a fait jusqu'ici, c'est on est parti du principe que si EcoGrade évalue à peu près 3 sites par semaine, pendant jusqu'à 2050, on aurait une évaluation donc de 4212 sites web. Cependant, comme l'a précisé Marie-Anaïs, c'est des sites, des évaluations qu'on va devoir mettre à jour régulièrement. Et donc, c'est vrai que notre portée, on va pas se porter sur tous les sites web qui sont disponibles sur Internet, mais seulement les principaux, et en particulier ceux qui sont utilisés par les UTC1.
Ok, effectivement, on a bien noté votre tension entre ajouter de nouveaux sites et maintenir à jour les informations. Peut-être une autre question, est-ce que vous avez pensé au contexte de votre propre site en termes d'impact environnemental? Et la personne qui pose la question demande si par exemple vous avez envisagé que ça puisse fonctionner avec un dispositif comme celui du chaton sportif qui a été présenté la semaine dernière, hein, où je rappelle il est nécessaire de pédaler pour faire fonctionner le site web. Alors est-ce que est-ce que vous avez imaginé des choses un petit peu de ce genre ou d'autres genres?
Oui, bien sûr. On a, en tant qu'association, avec quand même un impact qui cherche à avoir un impact positif sur l'environnement, on a quand même réfléchi à concevoir un site web, à imaginer un site web éco-responsable. Donc avec un hébergeur à faible, qui n'a pas un impact conséquent sur l'environnement, pas beaucoup d'images. On a réfléchi à ces aspects-là de notre site web. Et après, je pense que, bien sûr, la plupart des projets ont vocation à être croisés avec d'autres. Donc, on pourrait, bien sûr, le croiser avec le chaton sportif et réfléchir à comment, quel impact ça pourrait avoir sur l'environnement.
Ok, allez, peut-être une toute dernière question. Est-ce que vous avez anticipé des effets de greenwashing qui pourraient avoir lieu par l'usage de votre site? Alors, c'est un concept qu'on aura l'occasion de recroiser à d'autres reprises cet après-midi, mais par exemple, on pourrait avoir donc en imaginant que votre projet fonctionne, qu'il ait une certaine notoriété, on pourrait avoir des organisations qui cherchent à optimiser en quelque sorte leurs résultats par rapport à vos évaluateurs. Alors, sans peut-être imaginer qu'ils vont les corrompre ou ce genre de choses, mais ils pourraient par exemple avoir connaissance des grilles que vous allez utiliser, que vont utiliser vos évaluateurs, et chercher juste à optimiser ces aspects plutôt qu'à avoir une démarche vraiment, vraiment sincère. Je ne sais pas si vous avez imaginé un peu ce genre de choses.
Ouais, alors justement, c'était un peu l'intérêt de ce projet, c'était que ce soit vraiment un collectif qui effectue ces évaluations et non un algorithme comme c'est le cas sur Internet notamment actuellement. C'est-à-dire que le collectif, il va pas uniquement évaluer la consommation carbone et le temps de chargement du site web ou des choses comme ça. Il va aussi évaluer ce que ce site web produit en termes de vente. Je sais pas, par exemple, un site web qui permet la vente de produits polluants, et il aura une mauvaise note parce que sa vocation n'est pas bonne selon nous. Et donc il y a vraiment une importance à apporter une vision humaine et pas uniquement des chiffres derrière ces évaluations.
Allez-y, complétez, je vous en prie.
Oui, c'est ça, c'est avoir une vision un peu systémique de l'évaluation environnementale des sites web et de ne pas se cantonner qu'à ce que pourrait sortir un algorithme.
Juste un point à préciser. Certes, si un site, par exemple, vend du pétrole, enfin, une entreprise qui vend du pétrole, si son site est très éco-friendly et quoi qu'il arrive. Certes, il aura des points en moins sur le point de vue éthique. Après, ce n'est pas forcément pour ça qu'il aura 1 sur 10, par exemple. Toute la note ne sera pas que liée à l'éthique, mais c'est vraiment un tout qui sera regardé et avec attention, justement, et qui peut être mis en relation. Donc, ce sera une évaluation qui sera tout de même objective d'une certaine manière parce qu'on prend en compte cette part éthique.
Ok, on voit que sur cette conclusion, il y a pas mal de portes et de choses qui seront encore à creuser. Ça fera peut-être l'objet de projets suivants, par exemple, ou d'autres initiatives. Eh bien, à moins que vous ayez un dernier mot à ajouter, eh bien, je vous salue tous les trois. Je vous souhaite bonne continuation.
Merci.
Et puis, peut-être à une prochaine fois. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.